Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Pour combattre les maladies, on utilise depuis la nuit des temps poudres, potions, remèdes, ces traitements qui permettent de lutter avec plus ou moins d'efficacité et de sécurité contre l'agent pathogène. Depuis longtemps, la médecine utilise une autre ressource pour protéger et soigner ce trésor, c'est l'immunité, le système de défense de l'organisme qui est capable de bloquer naturellement certaines maladies en activant une réponse immunitaire. Une protection supplémentaire peut s'ajouter pour compléter cette immunité innée en ciblant tel ou tel virus par le biais, bien sûr, de la vaccination. Et lorsque le corps est affaibli par une infection, mise en péril par des cellules cancéreuses ou agressé par une inflammation, il est possible encore d'agir sur l'immunité en ciblant l'attaque à sa source, en activant des contre-feux pour reconnaître et se débarrasser de l'intrusion. Immunothérapie, traitement innovant, traitement prometteur, mais traitement coûteux. Ces options thérapeutiques qui occupent aujourd'hui la recherche médicale de pointe sont loin d'être accessibles à tous sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, nous allons donc tenter d'expliquer le plus clairement possible, on va essayer, comment fonctionnent ces immunothérapies, quelles sont leurs applications, mais aussi leurs effets secondaires et quelles perspectives pour demain en termes d'efficacité, en termes d'innocuité et bien sûr en termes d'accès, quel que soit le pays de résidence ou le statut social du patient. Cancer, infection, allergie, maladie auto-immune, immunothérapie, la révolution au cœur de notre système immunitaire. C'est le titre d'un livre publié chez Guy Trédaniel, éditeur que vous avez co-signé. Docteur Stéphane Champiat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes oncologue médical et vous exercez au sein du département d'innovation thérapeutique et d'essais précoces au centre de cancérologie Gustave Roussy. Un livre co-écrit avec vous, docteur Nicolas Noël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne immunologie clinique. Docteur Noël, vous êtes également maître de conférence des universités à l'Université Paris-Sud, praticien hospitalier dans le service de médecine interne du CHU de Bicêtre. Et au cours de cette émission, nous allons donner la parole à un patient, Cédric Stadelman. Il est atteint d'une spondylarthrite et sous biothérapie depuis une dizaine d'années. En fin d'émission, nous partirons pour Marseille, où s'achèvent aujourd'hui les actualités du Pharo, ces journées francophones de médecine et de santé publique tropicale. Nous serons en ligne avec le professeur Jean-Paul Boutin, président du GISP, le groupe d'intervention en santé publique en épidémiologie qui organise ses rencontres dans la cité phocéenne.
Priorité santé sur RFI.
D'emblée, docteur Nicolas Noël, j'insiste sur la nécessaire clarté, simplicité du propos, parce que quand on parle d'immunité, d'immunothérapie, c'est ce que j'ai rapidement compris en lisant votre livre, il faut se familiariser avec des notions pas toujours très simples pour quelqu'un qui n'a pas une formation scientifique. Alors, on va faire de l'étape par étape. D'abord, petite définition, l'immunité, qu'est-ce que c'est ?
L'immunité, c'est le système qui, dans notre organisme, nous permet de nous défendre contre les agressions. Agressions qui peuvent être soit de l'extérieur, c'est les infections, par exemple, agressions qui peuvent être de l'intérieur, c'est les cancers. Et notre système immunitaire qui nous défend contre ces infections peut parfois déborder et se rediriger contre nous. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes.
On peut dire que c'est un patrimoine qui est assez variable au cours de la vie ?
Oui, on peut dire que c'est un patrimoine variable au cours de la vie. Ça va dépendre des individus, mais c'est un patrimoine, ça fait partie de ce avec quoi on est, comme notre groupe sanguin.
Par exemple, quand un humain naît, un bébé, il a une immunité moindre qu'un adulte ?
Un bébé naît avec une immunité qui n'est pas tout à fait mature, il naît beaucoup avec l'immunité de sa maman, et il va au fur et à mesure de ses premiers mois de vie développer sa propre immunité contre ce qu'il va rencontrer.
Alors, ce mot d'immunité, on l'entend beaucoup, docteur Nicolas Noël, dans le langage courant, y compris dans le langage publicitaire, booster notre système immunitaire, renforcer notre immunité avec des pilules, des potions, tout ce qu'on trouve aussi dans certaines boutiques estampillées naturelles. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a des aliments, des nutriments qui vont stimuler les défenses immunitaires ?
Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a rien qui soit prouvé, et notamment rien qui ne soit scientifiquement prouvé. Ce qui est connu, c'est qu'est-ce qui peut amoindrir notre système immunitaire. Alors, il y a des maladies, bien évidemment, et puis il y a aussi des facteurs de risque. Le tabac, l'alcool sont des choses qui peuvent impacter notre système immunitaire. Le booster, c'est plutôt prendre soin de soi, et pour l'instant, rien de scientifiquement prouvé sur le reste.
Et ajouter des choses pour protéger, pour améliorer cette immunité. On parle d'immunité acquise quand on active une réponse immunitaire, c'est ça?
Oui, alors...
La vaccination, ça intervient comment dans cette immunité?
La vaccination, ça fait partie des immunothérapies, hein, et c'est probablement l'immunothérapie la plus ancienne qu'on puisse connaître et la plus importante. Et comment elle intervient? C'est l'éducation de notre système immunitaire, puisque notre système immunitaire s'éduque lui-même quand il rencontre une infection, et on va développer notre immunité. Ce que permet le vaccin, c'est de rencontrer des morceaux d'un agent infectieux et de s'immuniser contre lui. Donc, on va développer ce qu'on appelle une immunité acquise. On va donc acquérir une immunité dite spécifique contre telle ou telle infection grâce à la vaccination.
Alors, docteur Stéphane Champia, à vous la parole maintenant. L'oncologie, traitement du cancer. Mais quand on lit cet ouvrage, on comprend que ça va bien au-delà de cette maladie, du cancer. Tout un groupe de maladies importants, très différents. On peut dire qu'en général, ce sont des atteintes assez graves, parce que même si vous parlez, par exemple, dans votre livre d'allergies, quand on va vers l'immunothérapie pour les allergies, c'est qu'on est déjà face à des situations assez complexes.
Alors, en fait, c'est vrai que les maladies cancéreuses actuellement sont vues finalement un peu différemment avec l'arrivée de ces immunothérapies anticancéreuses. Jusqu'à maintenant, on avait un type de cancer et un traitement pour ce type de cancer. Ces immunothérapies, la révolution en cancérologie, c'est le fait qu'une même immunothérapie va pouvoir fonctionner dans différents cancers, et finalement que la maladie cancéreuse n'est pas une maladie spécifique d'un organe, mais une maladie du système immunitaire elle-même, et que ces immunothérapies vont être là pour traiter, aider le système immunitaire à reconnaître ces cellules cancéreuses.
Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, justement, le fait qu'on détermine quel cancer est réceptif à une immunothérapie? Est-ce qu'on avance pas à pas, ou est-ce que c'est la technique elle-même, la science elle-même qui nous dit on va s'orienter vers telle maladie, telle atteinte?
Alors l'approche qu'ont eu les scientifiques pour évaluer ces immunothérapies au départ, c'est de s'adresser au système habituel, c'est-à-dire que quand on a un cancer du poumon, on traite les patients pour voir si le cancer du poumon répond à l'immunothérapie. Et avec les résultats des immunothérapies, on se rend compte que tous les patients qui ont un cancer du poumon ne répondent pas de la même façon à l'immunothérapie. Et petit à petit, on comprend que bien sûr, le système immunitaire de ces patients, quand on l'analyse plus finement, nous permet d'avoir des pistes. Pourquoi tel patient va répondre? Pourquoi tel autre patient ne répondra pas à l'immunothérapie? Et on est vraiment au début, on évolue pas à pas pour mieux comprendre cet environnement immunitaire des cancers. Qu'est-ce qui se passe autour de ces cellules cancéreuses? Comment notre système immunitaire réagit à ces cellules cancéreuses pour déterminer quel patient va mieux répondre aux immunothérapies? On est vraiment au début de cette médecine personnalisée que j'appellerais 2.0, où on va essayer d'analyser non pas le cancer, mais le système immunitaire des patients, comment le système immunitaire réagit au cancer pour déterminer quel patient va bénéficier de quelle immunothérapie.
Est-ce qu'avec ce que vous venez de dire, ça signifie que, docteur Champia, la cancérologie en immunothérapie, c'est encore plus du sur-mesure, c'est vraiment chaque cas individuel, on va dire, on s'intéresse aux cellules des patients?
Je pense que c'est l'avenir, on n'y est pas encore. On a fait ces dernières années ce qu'on appelle de la médecine personnalisée, où on regardait dans la tumeur les mutations de la tumeur pour déterminer quel traitement pouvait traiter quelle cellule cancéreuse. Et avec l'arrivée des immunothérapies, on commence tout juste à comprendre, et on espère améliorer cela pour pouvoir effectivement avoir ces traitements personnalisés spécifiquement en fonction du système immunitaire des patients.
Alors justement, toujours pour clarifier, hein, du côté du vocabulaire, l'immunothérapie agit au niveau des cellules, c'est bien ça. Et ces cellules, ça peut être des cellules cancéreuses ou même des bactéries.
Alors, les bactéries, on est dans un monde un peu différent. On est dans le monde infectieux. Par rapport aux immunothérapies anticancéreuses, l'objectif est d'aller réactiver des défenses immunitaires, notamment des lymphocytes. Ce sont des cellules qui sont capables de reconnaître bien spécifiquement les cellules cancéreuses et potentiellement de l'éliminer. On va essayer de stimuler ces lymphocytes pour leur permettre de détruire le cancer. En fait, on s'est rendu compte ces dernières années que les cellules cancéreuses étaient capables de se cacher, de se camoufler par rapport au système immunitaire, et donc de grossir progressivement et de faire des métastases, de développer un cancer entraînant des conséquences potentiellement vitales. Et donc finalement, les traitements d'immunothérapie vont être là pour aider nos défenses immunitaires, les éduquer. On retrouve finalement les principes un peu des vaccins pour leur dire, voilà, les cellules cancéreuses, elles sont là, elles se camouflent, et voilà comment les détecter et les éliminer.
Et quand une immunothérapie échoue, comment est-ce qu'on s'en rend compte?
Alors, l'évaluation des patients, c'est-à-dire on va savoir comment vont les patients cliniquement, est-ce qu'ils se plaignent de douleurs plus importantes, ce qui vont faire suspecter que leur maladie cancéreuse progresse. Bien sûr, l'imagerie, hein, le fait de faire un scanner nous permet de voir la taille des lésions tumorales, du cancer, si de grossier évidemment. C'est un élément pour dire que l'immunothérapie ne fonctionne pas suffisamment ou ne fonctionne pas. Alors, on a eu des situations sous immunothérapie qui sont un peu particulières, où la maladie peut dans un premier temps grossir, donner le sentiment qu'elle progresse, alors qu'en fait, c'est dans un premier temps une sorte de réaction inflammatoire. Le système immunitaire va aller attaquer les cellules cancéreuses, donner le sentiment qu'elles grossissent, et dans un deuxième temps, les patients vont répondre à l'immunothérapie. Ces phénomènes-là sont relativement rares. On appelle cela la pseudo-progression, la fausse progression. Ça reste relativement rare, mais ça s'observe avec l'immunothérapie et ça bouleverse un peu les pratiques des cancérologues actuellement en cancérologie.
On comprend qu'il y a beaucoup de connaissances, mais il y a aussi pas mal de tâtons. Est-ce que vous diriez que cette spécialité en cancérologie revêt encore un aspect expérimental?
Alors, on n'est plus dans l'expérience, puisqu'on est dans la pratique courante. Actuellement, les patients reçoivent, dans certains pays, notamment la France, des immunothérapies de façon courante, des médicaments qui sont sur le marché en France. Et donc, dans ces situations-là, on n'est pas dans l'expérimental, on est dans la vraie vie. Mais effectivement, on a besoin de mieux comprendre. Et il y a effectivement beaucoup de recherches, de nouveaux essais cliniques qui permettent d'évaluer pourquoi, comment et du coup, comment améliorer les traitements des patients, à la fois sur le plan tolérance, mais surtout sur l'efficacité.
Alors, agir sur les cellules, on a compris là sur le cancer globalement, mais en lisant ce livre, on comprend que de très nombreuses maladies, surtout des maladies très différentes, peuvent être traitées en activant justement ces réponses immunitaires. Justement, j'aimerais, docteur Nicolas Noël, que vous nous citiez ces grands groupes de maladies qui sont concernés.
Qui sont concernés par les immunothérapies.
Oui.
Alors, il faut bien avoir compris, effectivement, que le mot immunothérapie, c'est comment cibler le système immunitaire pour le rendre efficace vers ce qu'on veut traiter. D'un côté, les cancers qui nécessitent d'optimiser, de renforcer le système immunitaire avec certaines immunothérapies. De l'autre, des maladies auto-immunes, des maladies allergiques qui elles-mêmes sont maladies parce que le système immunitaire lui-même est déjà trop actif et il faut à ce moment-là le freiner. Donc là, ce sont d'autres immunothérapies. Ça peut être des anticorps qui sont dirigés contre certaines cellules, par exemple, ou certains anticorps qui sont dirigés contre des molécules du système immunitaire et qui elles-mêmes vont freiner, vont diminuer cette inflammation.
Est-ce que l'efficacité est aussi probante pour ces différentes pathologies? Ou alors il faut vraiment distinguer les choses, dire qu'il y a certains individus qui vont être particulièrement réactifs et d'autres qui le seront moins? Est-ce qu'il y a comme ça une vision d'ensemble, docteur Noël?
Il y a une vision d'ensemble sur les maladies auto-immunes en particulier, puisque c'est là où le recul sur les immunothérapies est le plus important dans les pays comme la France, par exemple, qui les utilisent depuis plusieurs décennies maintenant. Donc on a beaucoup de recul. On sait que il y a certains patients qui vont très bien répondre très rapidement, d'autres chez qui on est obligé de modifier, de changer les immunothérapies.
J'aimerais, excusez-moi, que vous donniez des noms de maladies, parce qu'on dit maladie auto-immune, c'est comme un gros paquet, on voit pas bien ce qu'il y a dedans forcément.
Bien sûr. Une des maladies les plus exemplaires, par exemple, c'est ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie dite auto-immune articulaire, où le système immunitaire se dirige contre nos articulations. Ça fait mal aux articulations, ça les fait gonfler. C'est associé à ce qu'on appelle de l'inflammation très importante. Et c'était une maladie qui, jusque dans les années 80-90, pouvait conduire à des destructions des articulations avec les traitements qui existaient. Depuis le milieu des années 90, le début des années 2000, l'avènement d'immunothérapie qu'on appelle les anticorps anti-TNF-alpha, par exemple, a complètement transformé le visage de ces maladies, et en particulier le confort des patients qui ont la possibilité d'en bénéficier, avec moins destruction articulaire et une meilleure vie, finalement, avec ces traitements-là.
Meilleure qualité de vie aussi proposée aux personnes soignées par ces immunothérapies, ceux qui souffrent d'inflammation chronique des intestins, particulièrement dans le secteur de la pédiatrie.
Dans le secteur de la pédiatrie et dans les secteurs de l'âge adulte, une maladie qu'on appelle la maladie de Crohn, par exemple, ou une cousine qui s'appelle la rectocolite hémorragique, sont deux maladies dont le système immunitaire est perturbé de manière assez proche de ce qui peut se passer dans la polyarthrite rhumatoïde. Et d'ailleurs, les traitements sont assez identiques pour certains, c'est-à-dire ces fameux anticorps anti-TNF-alpha qui ont grandement amélioré le pronostic de ces maladies-là.
Et on va voir tout de suite une illustration dans Priorité Santé. Nous donnons la parole à un patient. Ce patient, c'est vous, Cédric Stadelmann, bonjour.
Bonjour.
Cet entretien a été enregistré. Cédric Stadelmann, vous êtes atteint de spondylarthrite et la maladie a été diagnostiquée il y a environ 10 ans, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien cela.
Et dans quelles circonstances ?
J'avais beaucoup de mal à marcher. Beaucoup de mal à marcher, beaucoup de mal à me lever, beaucoup de mal à me lever d'une chaise. C'était les douleurs qui me réveillaient, surtout en dernière partie de nuit. C'était après, je devais me lever, je ne savais plus comment me mettre. Enfin, faire les choses au quotidien, c'était plus possible. De toute façon, cette maladie, je pense que je l'avais déjà depuis un moment. Mon médecin me disait que je faisais pas assez de sport, en fait. Et le jour où j'avais beaucoup de mal à marcher, là, il m'a orienté vers un rhumatologue qui m'a diagnostiqué immédiatement la maladie. J'ai ensuite été suivi par un centre hospitalier et pour faire des examens et mettre en place un traitement adapté.
Alors, 10 ans de maladie depuis l'annonce du diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous décrire la nature de votre prise en charge, Cédric Stadelmann? Justement, après le diagnostic, quel a été le premier traitement?
Le premier traitement, ça a été un anti-TNF qui a été prescrit par le centre hospitalier là où j'étais suivi à Lille à l'époque. Ça a été un échec thérapeutique.
Quand on vous dit un anti-TNF, monsieur, vous allez avoir cette injection, qu'est-ce que vous comprenez? Parce que le nom est assez obscur.
On n'a pas grand explication des médecins, ça c'est dommage. On vous dit ça, vous avez telle maladie, on vous donne tel traitement. Donc vous allez chercher sur Internet et on voit de tout et de rien. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à accepter au départ cette maladie. C'est une sorte de déni en fait.
Est-ce qu'avant de prendre justement cet anti-TNF, vous avez dû passer des examens particuliers?
Tout à fait, IRM, radio, prise de sang, surtout, puisque j'ai le gène HLA-B27 positif, donc c'est un facteur qui permet de diagnostiquer plus rapidement la maladie.
Alors, cet anti-TNF, c'est une biothérapie. Est-ce qu'il y avait des effets secondaires ou des risques associés qui vous ont été présentés?
Oui, il y a toujours des risques, comme tout traitement. Bien évidemment, on m'a mis en garde. Pour le moment, il n'y avait pas de recul à l'époque. Il y avait un peu de recul sur les anti-TNF. Donc on m'a quand même rassuré, mais par contre on m'a bien dit que je pouvais être face à une diminution d'anticorps et donc de signes d'infection. Donc il fallait que je sois très très prudent pour ça.
Donc vous aviez une santé potentiellement plus fragile, vous avez dit ce premier anti-TNF n'a pas fonctionné, et alors on vous a proposé d'autres biothérapies.
Alors j'ai déménagé en Corrèze, donc j'ai été suivi par un autre rhumatologue privé. Au moment où il m'a dit que l'anti-TNF, donc c'était un échec, il a envoyé un courrier à mon médecin traitant me disant que j'étais un cas désespéré. Donc je me suis retrouvé seul. J'ai repris contact donc avec le CHR de Lille, qui m'ont dit qu'en fait il y avait d'autres anti-TNF possibles. Donc j'ai pris ma voiture et je suis remonté dans le nord et on m'a mis en place à Lille un nouveau anti-TNF que j'ai pu qui a fonctionné pendant 7 ans.
Et quand vous dites il a fonctionné, ça veut dire que votre corps réagit bien, ce produit circule dans votre organisme et vous protège des inflammations articulaires. Qu'est-ce qui se passe lorsque le produit perd son effet?
Là, c'était pas tellement une perte. Il faisait toujours effet sur mes articulations, mais cet anti-TNF me créait des uvéites. Donc ça a été un effet secondaire. Il ne me protégeait pas contre les uvéites, comme j'avais un œil fragile. Au contraire, il a accentué les choses. Donc c'est pour ça en fait que j'ai dû l'arrêter. Mais par contre, au niveau articulaire, il fonctionnait très bien.
Et donc on est passé à une autre molécule?
Tout à fait. Le suivant, c'était Symphony. Une injection par mois et aucun effet au niveau articulaire.
Et aujourd'hui, quel est votre traitement?
Rémi-4 sous perfusion. Tous les 8 semaines, j'ai une prise de sang. Le médecin m'ausculte. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de se faire l'injection, par exemple, chez soi. 6 mois après, on voit le rhumatologue, on fait un point, même s'il y a une prise de sang de fait. On regarde un petit peu, on se fait consulter. Moi, je trouve que l'avantage de mon dernier traitement, c'est que au moins tous les 8 semaines, je vois un rhumatologue. On fait un bilan sanguin. Si j'ai un autre problème, on fait des examens. Si j'ai une douleur ailleurs, on fait des examens, des radios. Enfin voilà, je trouve que vraiment ce dernier traitement, finalement, je me disais que ça allait être un poids parce que c'est pas évident de gérer ça. Mais au final, je trouve que c'est mieux en fait. Et là, depuis je le prends, 48 heures après, je revivais. Et depuis le 8 janvier 2019, je revis. Je vis normalement. Voilà.
Est-ce que vous avez fait aussi quelque chose du côté de votre morale? Parce qu'on imagine qu'avoir cette maladie chronique limite votre mobilité, c'est quelque chose de très difficile, y compris sur le plan professionnel. Est-ce que vous êtes suivi sur le plan psychologique?
Oui, tout à fait. Je suis suivi par un psychiatre qui intervient en rhumatologie au CHU de Limoges. Et je suis aussi suivi psychologiquement au centre médico-psychologique parce que j'ai besoin de parler. Voilà.
Et qu'est-ce que vous diriez que la maladie et votre prise en charge vous ont enseigné? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et qu'est-ce qui a avancé justement dans votre rapport à votre corps et à cette maladie?
Ben moi, j'ai appris à l'accepter déjà. Pour moi, c'est une colocatrice. Alors des fois, il faut que je l'écoute. Des fois, je dois l'écouter. Ça m'a forgé un caractère plus dur, puisque moi j'ai une expérience, donc j'ai pu aider des jeunes malades aussi, qui étaient dans le déni, dans l'incompréhension comme moi j'ai été à l'époque, leur montrer qu'en fait ils sont pas seuls, voilà. Ils sont pas seuls à avoir cette maladie.
Est-ce que vous diriez, c'est ma dernière question, que ça a développé une relation spéciale avec les soignants, avec les médecins, avec les infirmières, mais aussi avec ce médicament?
Le problème qu'il y a, c'est que les médecins n'ont pas beaucoup de temps à nous consacrer. Mais moi, j'ai appris à parler avec mon médecin, à prendre le temps, à lui poser des questions et il répond à mes questions. Et ça, le problème qu'il y a, c'est que si on pose pas de questions, le médecin, pour lui, vous avez ça, bon, aujourd'hui, on fait ça, on passe à telle biothérapie, voilà, merci, au revoir, on se revoit dans 6 mois. L'échange est important et surtout avoir confiance en ses soignants.
On vous remercie beaucoup pour ce témoignage, hein. Cédric Stadelmann, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, certains termes qui méritent d'être expliqués. Je me tourne vers le médecin spécialiste en médecine interne et immunologie clinique, docteur Nicolas Noël. Le terme de biothérapie, cela recouvre quoi exactement? Je pense que c'est difficile, la question que je vais vous poser, mais c'est fabriqué comment? Non, mais il y a quoi dedans, dans ces petites fioles?
Il y a quoi dans les biothérapies? Alors, le mot biothérapie est relatif à des traitements qui utilisent la biologie. C'est vraiment comme ça. Et donc l'immunothérapie fait partie de la famille des biothérapies. Utiliser la biologie et comment c'est fabriqué, alors c'est des procédés qui sont très complexes, qui sont très coûteux, qui découlent de plusieurs années, plusieurs décennies en général de recherches fondamentales pour cibler d'une part une cellule ou éventuellement une molécule, c'est-à-dire quelque chose qui soit exprimé sur une cellule pour pouvoir développer des anticorps contre ça. Et comment c'est fabriqué? On va isoler ces cellules-là, on va fabriquer des anticorps contre ces cellules qu'on va ensuite amplifier, ce qu'on appelle cloner, et derrière les automatiser, on va dire, le procédé de fabrication de telle sorte à ce que ça devienne un médicament. Et je précise que ce sont des procédés très longs, parce que derrière il y a beaucoup de procédés de vérification de l'innocuité de ces médicaments avant qu'ils puissent aboutir à une mise sur le marché.
Ça permet de répondre aux mauvaises agressions, mais est-ce que ça veut dire pour autant que ça peut aussi éviter des bonnes réponses, et c'est-à-dire que là, le patient, comme on le disait, va se retrouver fragilisé, plus vulnérable aux infections? Est-ce que quelqu'un sous biothérapie est immunodéprimé?
Oui, je crois que c'est quelque chose qui est effectivement très important et ça a été dit dans le reportage. Tout médicament a des effets secondaires et les effets secondaires parmi ces familles de biothérapie qui vont affaiblir le système immunitaire sont principalement des effets secondaires, enfin une crainte d'un plus grand risque d'infection. Les infections vont dépendre du type de molécule qui est ciblée, donc du type de médicament et d'immunothérapie. Mais effectivement, on peut considérer que les patients qui reçoivent ces molécules-là sont en quelque sorte immunodéprimés.
Ça veut dire qu'on ne peut plus, par exemple, ça c'est très important, dans toute la vague de scepticisme par rapport au vaccin qu'on a, de bien expliquer, ces personnes ne peuvent pas recevoir de vaccin vivant. Donc les personnes bien portantes qui, elles, ne se font pas vacciner font courir de grands risques à ces personnes sous biothérapie qui sont de plus en plus nombreuses.
Oui, ça c'est très important. Alors la vaccination qui est contre-indiquée chez les personnes immunodéprimées les rend nécessairement beaucoup plus vulnérables et la vaccination des personnes autour est vraiment quelque chose qui, pour eux, est quelque chose qui les défend. Et c'est comment renforcer le système immunitaire autour, hein, ce qu'on appelle l'immunité de groupe ou l'immunité de troupeau, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est toutes les personnes autour dans le troupeau qui peuvent défendre la personne qui est au milieu, qui elle n'a pas le droit de se faire vacciner.
On a entendu ce patient qui disait, docteur Nicolas Noël, à un moment donné, le traitement n'était plus vraiment pertinent, plutôt qu'il ne marchait plus. Mais est-ce qu'il y a, parce que lui, il avait des effets secondaires ou des effets indésirable, mais est-ce qu'il y a des moments où, en fait, le produit est moins performant, l'organisme ne réagit plus correctement?
Ce qui est très important, c'est parmi les symptômes que va présenter un patient, de bien faire la part des choses entre quelque chose qui serait un effet secondaire ou quelque chose qui serait un manque d'efficacité du traitement. Et ça a été dit par ce patient et je crois que c'est quelque chose qui est important. Il y a la nécessité absolument de discuter à ce moment-là avec son médecin et de pouvoir poser toutes les questions pour faire la part des choses entre les deux. Des effets secondaires peuvent conduire à modifier à ce moment-là un traitement pour avoir un traitement qui soit aussi performant mais mieux toléré. À l'inverse, ces traitements-là, pour répondre à vos questions, peuvent en effet avoir une efficacité partielle sur certains symptômes de la maladie. Par exemple, ici, c'était les douleurs articulaires, mais être moins efficace sur d'autres symptômes, par exemple les uvéites, qui sont des inflammations au niveau des yeux, et peuvent à ce moment-là conduire également à modifier le traitement pour être efficace sur toutes les manifestations.
Il y a aussi des cas où on va dire que l'organisme se retourne contre le traitement, commence à faire des sortes de résistances. Comment on l'explique ?
Alors ça, c'est quelque chose qui est important avec certaines immunothérapies. Ça n'est pas décrit avec toutes. Ce que vous décrivez, c'est l'organisme lui-même peut faire des anticorps contre le médicament. C'est en particulier le cas des anticorps anti-TNF-alpha et de cette tête de file qu'on appelle l'infliximab. Comment ça se passe ? On donne à quelqu'un un anticorps qui, dans le procédé de fabrication, justement, a été fabriqué avec des cellules et parfois, à la base, des cellules animales. Et on peut s'immuniser contre ces anticorps-là ou contre les cellules animales et donc développer des anticorps qui amoindrissent l'effet de ces traitements-là. Comment l'éviter ? On donne souvent en parallèle un médicament qui module le système immunitaire de telle sorte à éviter l'apparition de ces anticorps pour en garder l'efficacité.
Ça peut être par exemple des corticoïdes.
Ça peut être par exemple des corticoïdes ou surtout un médicament qui a plus de 4 décennies maintenant qui s'appelle le méthotrexate.
Alors, immunothérapie, on va revenir justement à ces travaux spécifiques dans le domaine de l'oncologie pour le cancer. D'ailleurs, des travaux qui ont été salués par le prix Nobel de médecine en 2018. Domaine de recherche, on l'entend souvent. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui sont publiés, y compris dans la presse grand public à ce sujet. Traitement prometteur. On parle même d'une révolution en cancérologie. C'est une réalité ou c'est exagéré, docteur Stéphane Champia ?
Alors, je crois que c'est une réalité, puisqu'effectivement, on est dans une situation où jusqu'à maintenant on espérait beaucoup de l'immunothérapie sans avoir de vrais résultats. Et on peut dire que depuis les années 2010 puis 2015, on a une efficacité de ces traitements qui est très importante, malheureusement pour une minorité des patients, mais qui reste un nombre important de patients. Révolution pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour la première fois, donc l'immunothérapie fonctionne, non seulement elle marche dans un cancer, mais dans plusieurs types de cancers en même temps, et c'est ça qui est assez, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement on peut avoir un médicament qui va marcher dans différents types de cancers. Révolution également parce que ces traitements fonctionnent, c'est-à-dire que lorsque la maladie cancéreuse diminue, elle diminue souvent de façon prolongée, et ça c'est quelque chose qui est très différent par rapport aux chimiothérapies ou aux thérapies ciblées où la plupart du temps le cancer réévolue au bout de quelques mois, ou au bout de plusieurs mois, alors qu'avec l'immunothérapie on voit des rémissions prolongées sur plusieurs années. L'exemple le plus important, c'est dans le cas du mélanome, le cancer de la peau, où effectivement, chez les patients qui ont une maladie qui a diminué de façon importante, elle reste contrôlée plusieurs années. On a maintenant des patients au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans, qui ont une maladie qui était au départ métastatique, c'est-à-dire localisée dans différents organes, qui reste contrôlée et pour lequel on se pose la question, est-ce qu'on doit parler de guérison dans des cancers jusqu'à maintenant qui étaient des cancers très agressifs pour ces patients.
Vous dites guérison, mais je vous pose une question. On ne peut pas arrêter l'immunothérapie.
Alors, on se pose la question. On se pose la question notamment chez les patients où la maladie a disparu, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est plus détectable par les scanners. Dans ces cas-là, on se pose la question, est-ce qu'on peut arrêter l'immunothérapie ? Ça reste actuellement dans un domaine de recherche, c'est-à-dire qu'on évalue les patients et on surveille ces patients de près. Certains patients vont malheureusement avoir une maladie qui va réévoluer, et la question à ce moment-là sera de voir si l'immunothérapie peut à nouveau refonctionner chez ces patients. En tout cas, on pense, et c'est pour ça qu'on parle de révolution, trouver une clé importante pour traiter le cancer, en tout cas traiter le cancer chez certains patients, qui peut être très importante et qui explique le développement actuel de nombreuses recherches, de nouvelles immunothérapies qui sont évaluées chez les patients actuellement.
Au moment où nous parlons, docteur Stéphane Champier, on a essayé comme ça de suspendre des immunothérapies chez des personnes qui avaient combattu le cancer et qui on voyait de bons résultats ?
Oui, alors en fait, il se trouve que les protocoles d'immunothérapie, qui étaient les protocoles qui ont permis d'évaluer l'immunothérapie avant la mise sur le marché, certains protocoles prévoyaient 1 an de traitement, voire 2 ans de traitement, puis l'arrêt du médicament. Donc on a un nombre de patients maintenant qui deviennent plus importants qui ont dû arrêter le traitement, soit parce que effectivement le protocole prévoyait d'arrêter le traitement au bout de 2 ans, soit parce qu'ils avaient développé une toxicité qui nécessitait d'arrêter l'immunothérapie. Donc oui, on commence à avoir des patients qui n'ont plus de traitement, qui sont surveillés par des scanners réguliers et pour lesquels on se pose la question, est-ce qu'on a réussi à guérir la maladie? Ça reste pour l'instant, j'aurais tendance à dire anecdotique, c'est-à-dire que je pense que le nombre de patients n'est pas suffisant pour en tirer des conclusions claires, mais effectivement, la question de demain, c'est est-ce qu'on va pouvoir, chez ces patients-là, arrêter les traitements pour les surveiller et réagir si jamais ces maladies réévoluent à nouveau.
Alors, on a compris, il y a un groupe de maladies spécifiques, d'atteintes cancéreuses spécifiques qui sont justement pertinentes pour ces traitements. Est-ce que ça veut dire forcément que le patient est passé par une chimio ou une radiothérapie qui ont échoué? Ou on peut dire que c'est première intention, deuxième ligne? Qu'est-ce que c'est exactement dans ce schéma, dans ces protocoles?
Alors, lorsqu'un patient est atteint d'un cancer, notamment métastatique, lorsqu'un maladie est en dehors du site où le cancer a débuté, on propose la plupart du temps des traitements, que ce soit la radiothérapie, de la chimiothérapie, ou de l'immunothérapie, et on parle de ligne de traitement. Le premier traitement que va recevoir le patient, on parle de la première ligne de traitement. Et il se trouve que maintenant, dans certains cancers, donc notamment le mélanome ou le cancer du poumon, certains patients ne recevront pas forcément de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, mais d'emblée une immunothérapie.
Et ça, c'est déjà une petite révolution.
Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution qui est actuelle pour certains patients en cancérologie.
Alors, bien sûr, pour les traitements conventionnels du cancer, en particulier la chimiothérapie, on a l'image des cheveux qui tombent pour un certain nombre de patients ou de patientes. Est-ce que c'est la même chose du côté des effets secondaires, docteur Stéphane Champier? Est-ce que quand on est traité par immunothérapie, notre corps peut réagir d'une façon plus ou moins visible au fait qu'on ait administré ces traitements?
Alors, il est important de préciser que l'immunothérapie a des effets secondaires, mais qu'ils sont vraiment différents de la chimiothérapie. Et on a parfois des patients qui nous disent, écoutez docteur, l'immunothérapie, même si ça marche pas, c'est tellement mieux parce que je n'ai plus ces effets secondaires de nausées, de vomissements, de perte de cheveux. Alors malheureusement, ça ne marche pas chez tout le monde, donc on peut avoir moins d'effets secondaires et ne pas avoir de bénéfices de ces traitements. Mais les effets secondaires sont différents. Comme je le précisais tout à l'heure, ils peuvent activer les défenses immunitaires contre nos propres cellules. Alors la plupart du temps, les patients tolèrent mieux que la chimiothérapie, mais certains patients peuvent développer une réponse immunitaire contre des cellules normales, et par exemple la thyroïde, entraîner des dysthyroïdies, nécessiter qu'on mette un traitement substitutif par hormone thyroïdienne. Parfois ça peut être plus grave et entraîner des toxicités au niveau des muscles ou du cerveau. C'est très très rare, mais effectivement ça nécessite une surveillance un peu plus importante lorsque un patient présente un symptôme nouveau qui pourrait être lié à une toxicité de l'immunothérapie.
Une question très simple et basique que je ne vous ai pas encore posée, docteur Stéphane Champiat. Comment ces immunothérapies anticancéreuses sont-elles administrées?
Alors, les médicaments qui sont sur le marché en Europe et aux États-Unis, c'est des médicaments qui sont administrés en intraveineux. C'est des perfusions qui ont lieu toutes les 2, toutes les 3 semaines, voire toutes les 4 semaines, avec une surveillance régulière, notamment par scanner, et une surveillance de la prise de sang avant de débuter et pendant les traitements. On commence également à avoir certains médicaments d'immunothérapie qui sont administrés directement dans les lésions tumorales et dans le mélanome. Il y a des médicaments qui sont approuvés où on injecte des métastases cutanées, donc des tumeurs qui sont au niveau de la peau, directement avec une immunothérapie.
Aujourd'hui, c'est quoi quand un patient rentre dans un protocole comme ça? C'est un patient comme les autres, ou est-ce qu'on le considère encore comme un patient qui est pris en charge dans le cadre d'un essai thérapeutique?
Alors, il y a 2 situations. Il y a les situations des médicaments qui sont administrés sur le marché. Et dans ces cas-là, les patients reçoivent ces médicaments en dehors de tout protocole de recherche. Moi, je travaille avec Gustave aussi dans un service qui s'occupe de développer des nouveaux traitements et notamment des nouvelles immunothérapies. On est dans une situation où effectivement les patients sont dans des protocoles, c'est-à-dire que on doit être beaucoup plus vigilant sur l'efficacité et la tolérance de ces médicaments, avec une surveillance très rapprochée, donc un peu plus lourd pour les patients. Et ça reste des protocoles de recherche. Donc les patients, quand ils participent à ces protocoles, ils acceptent également d'avoir des prises de sang supplémentaires, voire des biopsies de leur maladie, pour qu'en même temps les médecins, les scientifiques comprennent mieux l'efficacité, comprennent mieux la maladie pour développer ces traitements.
Alors un sujet qu'on n'a pas encore abordé, il est essentiel, c'est celui du coût de ce type de traitement. On a bien compris depuis le début de l'émission, même si on parlait tout à l'heure de molécules qui sont sur le marché depuis des dizaines d'années, cela coûte très cher, docteur Nicolas Noël. Est-ce qu'il y a certaines de ces immunothérapies qui sont plus accessibles que d'autres?
Oui, il y a certaines de ces immunothérapies qui sont plus accessibles que d'autres. Alors, si on parle vraiment des immunothérapies, des maladies auto-immunes, par exemple, les immunothérapies les plus anciennes peuvent être accessibles dans différentes zones du monde, mais néanmoins pas partout, essentiellement à cause de leur coût. Et les thérapies les plus nouvelles, qui sont souvent les plus prometteuses également, sont malheureusement pas accessibles partout.
Mais pour donner un ordre d'idée, on va pas dire, on sait très bien que il y a pas une étiquette avec un prix au-dessus d'un patient. Mais ça coûte combien par année une prise en charge? Parce que quand on est sous biothérapie, par exemple le patient qu'on a entendu tout à l'heure, ça ne s'arrête pas. Hein. Il est en permanence, il va recevoir ses injections de façon permanente. Tant que ça marche, on continue.
Il y a certaines biothérapies comme les anticorps anti-TNF alpha effectivement dont on ne sait pas quand les arrêter et là c'est pas par année en fonction des pays, ça va coûter plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an et par patient. Il y a des thérapies qui coûtent encore beaucoup plus cher que ça puisque là on peut parler de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et tout dépend de leur ancienneté également. Ensuite, il y a des biothérapies ou des immunothérapies qui elles s'arrêtent dans le temps, c'est l'exemple d'une molécule qu'on appelle le rituximab, qui est une molécule utilisée dans certaines maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques ou comme le lupus, par exemple, et qui, elle, s'arrête effectivement dans le temps et qui existe depuis une vingtaine d'années aujourd'hui et coûte moins cher. Néanmoins, les pays comme la France, comme les États-Unis, l'Europe ont ces traitements-là. Beaucoup de pays en Afrique du Nord peuvent avoir le rituximab et certains anticorps anti-TNF-alpha. Ça ne va pas être le cas partout dans le monde, très clair.
Parce qu'il faut avoir le système de santé qui a les épaules assez larges pour supporter justement cet impératif financier.
Il faut avoir le système de santé qui a les épaules assez larges et les négociations qui se sont faites effectivement, oui.
Avec justement les laboratoires, c'est très important parce que sur certaines molécules, il y a eu des... Est-ce qu'on parle déjà de générique? Est-ce qu'il y a déjà des produits de substitution pour éviter justement d'avoir le produit à plein coût?
Oui, tout à fait. On parle de biosimilaire quand on parle de biothérapie. C'est une espèce, si on veut vulgariser, de générique, hein, tout à fait. Et c'est le cas, par exemple, de certains anticorps anti-TNF-alpha ou du rituximab.
Alors, on a parlé de ces coûts déjà importants, hein, dizaines de milliers d'euros pour ces biothérapies. Alors là, docteur Stéphane Champia, quand on parle des immunothérapies contre le cancer, il y a des sommes qui font tourner la tête.
Oui, effectivement, c'est vrai que les immunothérapies qui sont sur le marché actuellement, le coût est de plusieurs milliers d'euros par mois. La bonne nouvelle, je pense, c'est que plusieurs laboratoires et de nombreux laboratoires développent des médicaments similaires, pas forcément des biosimilaires, puisqu'effectivement les brevets courent encore, mais des médicaments similaires. Et donc l'offre sur le marché pourrait être plus importante et on espère du coup que ça permettra de faire baisser les prix, puisque c'est des médicaments qui agissent, ou en tout cas sont censés agir de la même façon. On parle de certaines thérapies qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, notamment ces perfusions de lymphocytes modifiés génétiquement, qu'on appelle les CAR T-cells, pour cellules modifiées avec un récepteur chimérique. Ces médicaments sont très nouveaux, sont très complexes à développer et à produire. Le point positif de ces médicaments, c'est que une seule injection est administrée, donc on n'a pas besoin de répéter ces plusieurs centaines de milliers d'euros. La bonne nouvelle peut-être, c'est qu'effectivement c'est un champ de recherche très important et donc plusieurs laboratoires travaillent sur ces molécules et donc potentiellement plusieurs médicaments seraient disponibles à l'avenir. On est très tôt sur ces nouveaux traitements, donc là par contre je me prononcerai moins sur la disponibilité de ces cellules génétiquement modifiées dans le traitement du cancer par rapport aux médicaments qui sont déjà sur le marché et qui, eux, sont plus simples à produire que ces molécules d'immunothérapie.
Question éthique quand même. Si ça coûte si cher, c'est parce que ça coûte à la fabrication si cher en termes de recherche, en termes de produits, en termes de développement, ou parce que finalement aussi, c'est une manne, parce que beaucoup de ces patients sont traités dans des systèmes de santé où il y a une prise en charge publique et que finalement, il y a aussi une source de revenus potentiel sur ces traitements.
C'est sûr que ces médicaments rapportent beaucoup d'argent. Ils ont coûté probablement très cher en termes de recherche et développement, en termes d'évaluation de la tolérance, de la sécurité de ces médicaments. L'enjeu, effectivement, il est majeur pour les patients. C'est-à-dire que le coût est complexe, mais le fait que ces médicaments améliorent la survie, c'est-à-dire prolongent la durée de vie des gens, ça faisait ça faisait assez longtemps qu'en cancérologie, on n'avait pas des médicaments qui permettaient ce type de résultat. Et donc, on peut comprendre que lorsqu'on a des résultats importants dans certains cancers, l'industriel qui développe le médicament dise, mon médicament, il apporte beaucoup à vos patients par rapport à d'autres médicaments. Et donc, cela justifie un prix plus important. Mais c'est vrai que d'un point de vue éthique, à un moment donné, il faut quand même se poser la question de l'accès à ces traitements et que cette révolution ne reste pas réservée à certains privilégiés, certains pays privilégiés.
Certains pays privilégiés et encore certains pays avec des systèmes à deux vitesses. En France, on est dans un système d'assurance maladie publique. Comment ça se passe, par exemple, aux États-Unis? Là, on a les hôpitaux, on a les ressources quand on a une assurance maladie, mais quand on est pauvre, on souffre d'un cancer dont la réponse est l'immunothérapie, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, je suis pas un expert du système américain, mais c'est vrai qu'effectivement, le système privé américain fait que si on n'a pas une assurance conséquente, on ne peut pas se permettre ce type de traitement. Et donc, ça aboutit effectivement soit à des patients qui ne peuvent pas se traiter, soit à des drames familiaux où les patients vendent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui leur appartient.
Avec un surendettement, ce qu'on voit aussi en Afrique pour des maladies beaucoup plus simples, simplement même des fois pour financer une hospitalisation de moyenne durée, toute la famille qui s'endette pour aider le membre. Le proche qui est dans la nécessité. Alors, au-delà de ce frein financier, est-ce qu'il existe aussi, je me tourne vers tous les deux, des freins en termes de formation des soignants? Est-ce qu'aujourd'hui, le savoir-faire de l'immunothérapie est suffisamment, commence vraiment à se développer dans les systèmes de soins, dans les différentes structures de santé? Je me tourne vers vous, docteur Nicolas Noël.
Alors, des freins, il y en a encore, mais heureusement, il doit y en avoir de moins en moins, puisque pour répondre à ce frein-là, il y a la formation. Ce que disait Stéphane Champia tout à l'heure est important, c'est que ça a changé notre vision de ces maladies-là, les immunothérapies, et notre manière de travailler ensemble. Et donc, les personnels de cancérologie et les infirmières, par exemple, ou soignants de cancérologie se sont formés ou sont en train de se former à l'immunologie, et à l'inverse, les personnels de services d'immunologie, de médecine interne, de rhumatologie, qui eux avaient beaucoup l'habitude de certaines biothérapies et des maladies auto-immunes, se forment à la cancérologie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très actuel, n'est que débutant, ça va continuer, et cette formation est importante et va l'aider de plus en plus.
Et du côté des perspectives d'avenir, docteur Stéphane Champia, justement de la recherche, c'est votre domaine, est-ce qu'on sait justement dans quel secteur, vers quelle spécialité peut-être les chercheurs concentrent leur attention, progressent, même s'il y a beaucoup de secrets, bien évidemment, on imagine autour de ces recherches. Mais l'espoir, il est où?
En fait, la grande question qu'on se pose actuellement, c'est pourquoi les patients ne répondent pas tous à l'immunothérapie. Et donc, on cherche à tout prix à comprendre pourquoi des patients ne répondent pas du tout et pourquoi certains patients vont répondre et progresser dans un deuxième temps. Donc, ce qu'on appelle le phénomène de résistance primaire à l'immunothérapie ou résistance secondaire. Et ça, c'est un enjeu essentiel puisque dans les cancers qui souffrent de l'absence de réponse à l'immunothérapie, vous avez des cancers qui sont très fréquents. La plupart des cancers du sein ne répondent pas à l'immunothérapie. Le cancer de la prostate ne répond pas à l'immunothérapie. Et donc, effectivement, le cancer colorectal, la plupart des cancers ne répondent pas à l'immunothérapie. Donc vraiment, on a découvert avec ces médicaments le fait que le cancer pouvait être sensible au système immunitaire et répondre à ces traitements. Et on a ouvert une porte et maintenant on essaie de comprendre pourquoi et comment faire que le système immunitaire soit capable de contrôler les différents cancers qui posent des soucis chez nos patients.
On vous remercie tous les deux de nous avoir éclairés sur les immunothérapies. Docteur Stéphane Champia, oncologue médical au Centre de cancérologie Gustave Roussy. Et à vous, docteur Nicolas Noël, médecin spécialiste en médecine interne et immunologie clinique. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, ce livre que vous avez co-signé, Immunothérapie, révolution au cœur de notre système immunitaire, aux éditions Guy Trédaniel.
Priorité santé sur RFI.
Rendez-vous annuel dédié à la médecine tropicale. Les actualités du Pharo se tiennent jusqu'à ce soir à Marseille. Un rendez-vous donné par le groupe d'intervention santé publique en épidémiologie, le GISP, dont vous êtes le président, professeur Jean-Paul Boutin. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Alors, professeur Boutin, thème principal cette année, vers une seule santé, avec forcément, on imagine à Marseille, la convergence de nombreux acteurs.
C'est le moins qu'on puisse dire. Plus de 200 personnes qui sont au rendez-vous depuis deux jours et jusqu'à ce soir.
Quand on dit une seule santé, c'est en anglais One Health. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce slogan, derrière cette expression?
Alors derrière, il y a un concept. Ce ne sont pas des institutions, c'est pas des boutiques, c'est pas des centres de recherche. C'est un concept qui a été formalisé aux États-Unis il y a une quinzaine d'années. par les médecins vétérinaires et qui est une forme de réponse à la succession de maladies infectieuses émergentes qui nous envahit depuis 15 ans. Alors, je vous rappelle quelques mots. Zika, Nipah, grippe aviaire, chikungunya, l'émergence de la maladie d'Ebola en ville, en Guinée. Et ces maladies émergentes, dans 70% des cas, viennent d'animaux. Et on voit le lien entre la santé des animaux et la santé des hommes. Mais ils viennent le plus souvent d'animaux de l'environnement humain, domestique, qui eux-mêmes se sont contaminés auprès d'animaux sauvages, qui eux-mêmes se sont contaminés ou ont pu se contaminer au niveau de l'environnement, puisque la terre, le sol sur lequel on est plein de bactéries et de virus, mais notre environnement, il est lui-même perturbé, en particulier par les activités humaines, et je boucle la boucle, d'une santé globale.
Santé globale, activités humaines comme par exemple la déforestation avec la poussée démographique, notamment sur le continent africain. On comprend bien que les bassins forestiers sont de plus en plus accessibles à l'homme. Cette convergence des spécialités avec notamment l'intérêt pour ces médecines, toujours sur votre groupe d'études, ces maladies émergentes, mais toujours en toile de fond aussi les maladies négligées.
Oui. Alors, quand en Amérique du Nord, on commence à développer le concept ONL, on s'intéresse à la santé des peuples du Nord. Et nous, la spécificité de notre congrès, c'est effectivement d'étudier, de mettre en avant tout le problème ONL dans les pays du Sud, parmi lesquels la vingtaine de maladies dites tropicales négligées, au sens de l'OMS, la plus connue d'entre elles, étant la maladie du sommeil.
La maladie du sommeil, mais aussi toutes les maladies liées aux vecteurs transmis par l'eau qui concernent des dizaines et des centaines de millions de personnes, notamment sur le continent africain.
Et là, vous abordez plutôt le côté climat, environnement, assainissement. Vous marquez bien la globalité de la santé. Et quand je vous donne l'exemple de la maladie du sommeil, n'oublions pas qu'elle fait partie d'une famille de maladies qu'on appelle les trypanosomoses, qui touchent le bétail, et que ce bétail, lorsqu'il est atteint, c'est une perte économique essentielle pour des éleveurs, qui sont souvent des éleveurs, des petits éleveurs ruraux, et donc on voit bien le lien qu'il y a à s'attaquer à la mouche qui transmet la maladie à l'homme, et qui appauvrit le cheptel.
Donc, problématique globale, sanitaire, sociale, environnementale. Alors, lors des sessions passées, au cours des derniers jours, ou ce qui se prépare encore pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, professeur Jean-Paul Boutin?
Je prends plusieurs exemples. La rage. Qui, politiquement, prend en compte, quel que soit le pays, la lutte contre la rage? Le ministre de la Santé? Mais il n'a que quelques patients par année. Le ministre de l'Agriculture? Mais il va vous dire que le chien n'est pas un problème d'élevage, c'est pas un animal de rente.
Peut-être le lobby de la chasse vous répondrait, non? Le lobby de la chasse, à la limite.
Oh, dans les pays du Sud, la
problématique... Je parle du Nord.
Voilà, oui, voilà. C'est pas du tout la même problématique. Mais on voit bien que on a des chercheurs qui sont venus témoigner, qui nous présentent des avancées extraordinaires en termes de génomique, de phénotypie, etc. Mais si on veut une action concrète qui touche la santé humaine, la santé du cheptel et la santé de notre environnement, c'est un problème de politique et d'éducation des masses.
Et qui appelle une mobilisation. Merci beaucoup, professeur Jean-Paul Boutin. Je rappelle que vous êtes le président du GISP, qui organise chaque année ses actualités du Pharo à Marseille. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui la fabrique, la réalise. Louise Kaledek, Juliette Brault, Didier Bleu. Aujourd'hui, lundi, nous parlerons des relations parents-enfants. Être parent aujourd'hui avec le magazine Votre Santé. On attend vos appels 33 84 22 75 75. À lundi, d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.